Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Charles Bambara, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au micro d'Isabelle Dupuis, il fait le point sur le déploiement de la mission, mais aussi sur les défis qui attendent le pays à l'approche des élections.
Bonjour, Charles Bambara, vous êtes le directeur de la communication de la MONUSCO, la mission pour la stabilisation en RDC. La RDC se prépare à tenir toute une série de scrutins électoraux, notamment les présidentielles en 2016. Quelle est l'action de la MONUSCO à cet égard? Comment la MONUSCO appuie-t-elle le processus?
De façon concrète, il faut savoir que la dernière résolution 22-11 du Conseil de sécurité met effectivement l'accent sur trois points. Premier point, c'est vrai, c'est la réduction des forces de la MONUSCO sur le terrain. Deuxième point, la stratégie de sortie. Et puis troisième point, effectivement, les élections. La MONUSCO, bien avant d'ailleurs cette résolution et dans le cadre de la résolution précédente, avait engagé ce qu'on appelle ses bons offices. C'est-à-dire que le chef de la mission, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et ses différents adjoints, il y en avait deux jusque-là, plus d'ailleurs les chefs de différents départements et divisions de la MONUSCO, s'employaient à s'entretenir avec les différentes forces politiques de la nation congolaise, avec la société civile, avec différents acteurs politiques, sociaux du pays pour trouver un modus vivendi, un modus operandi autour de ces élections pour que le débat politique puisse être serein, apaisé, afin qu'on aille vers ces élections de façon sereine. Comme vous l'avez dit, il y a un tour, dès maintenant et jusqu'en fin 2016, début 2017 d'ailleurs, 11 élections à organiser, ce qui est assez lourd à faire et la MONUSCO devrait s'employer à notamment faciliter les problèmes logistiques autour de ces élections, à mobiliser également les fonds au niveau de la communauté internationale. Voilà un peu ce que nous faisons, les bons offices, la mobilisation des fonds, la préparation, j'allais dire, de l'arsenal logistique autour de ces élections pour accompagner donc les autorités de la CENI et les autorités gouvernementales pour que tout cela se passe bien.
Donc, comme vous l'avez dit, ces élections sont très complexes en raison aussi de la taille géographique du pays. Concrètement, quelle est la logistique justement à mettre en place? Quels sont certains des défis?
Les défis sont énormes. Vous avez dit, le pays est aussi grand que toute l'Europe de l'Ouest. C'est un peu ça. Et les infrastructures manquent sérieusement. Pratiquement pas de route d'Est en Ouest ou vice-versa, du Nord au Sud aussi, à cause aussi du fait que le pays est un des pays d'Afrique et dans le monde d'ailleurs où on a le plus de forêts. Hein. Après l'Amazonie, c'est sans doute le pays qui a les plus grandes forêts dans la région en tout cas. Donc cela pose d'énormes problèmes logistiques, de transport, de moyens simplement. Car il faut dire que le pays sort de plusieurs années de guerre civile. C'est vrai que la stabilité commence à revenir, mais tout n'est pas calme pour l'instant. Et donc, il faut que la MONUSCO, qui a un mandat au nom de la communauté internationale, puisse appuyer tout ce processus en mettant en place ses moyens d'aviation, parce que nous avons une bonne flotte qui pourrait aider la CENI à envoyer le matériel électoral sur place dans les différentes localités. On a déjà commencé parce qu'il y a eu des élections locales au niveau du primaire, des élections primaires. Donc, il nous faut aussi participer d'une certaine façon aux côtés de la CENI à la formation des différentes personnes qui vont être impliquées à tout cela au niveau sécuritaire, au niveau simplement de la Commission électorale nationale, mais aussi veiller à ce que la communauté internationale tout entière puisse participer au niveau du financement, car on a estimé le budget à plus d'un milliard de dollars, ce qui est très lourd. Il faut trouver les sous pour cela, pour organiser ces élections. Voilà un peu où se situe donc l'action de la MONUSCO. Et cela est bien parti depuis quelques semaines, quelques mois. Comme j'ai dit, la MONUSCO est impliquée à cela. Et nous espérons pouvoir accompagner le processus jusqu'à terme.
L'actualité en RDC est également marquée par la lutte contre les FDLR. Et la MONUSCO avait participé puis avait été contrainte de se retirer d'une opération justement pour les combattre. Où en sont les relations entre la mission et le gouvernement ?
Les relations s'améliorent, il faut le dire. C'est vrai qu'au début du déclenchement de ces opérations, le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Etumba Abeni, au nord du pays, donc, avait décrété que ces opérations allaient être menées par les FARDC, l'armée congolaise, avec l'appui de la MONUSCO. Il se trouve que juste à la veille du déclenchement de ces opérations, quelques officiers de l'armée supérieure ont changé de position et la MONUSCO avait émis quelques réserves et ensuite a décidé une pause dans ses relations de soutien donc au FARDC qui ont ensuite lancé, c'est vrai, ces opérations contre les FDLR. Il faut dire que dès après son retour du Conseil de sécurité, Martin Kobler, le chef de la mission, s'est rendu à Niazalé, à Kiwanja et dans d'autres localités pour voir comment avançaient ces opérations FARDC contre les FDLR. Son constat était le suivant. Il trouve que les opérations, justement, bien qu'ayant commencé, peinent un peu à se concrétiser, à prendre une certaine ampleur. Et il a proposé aux autorités militaires, aux autorités politiques du pays, que la MONUSCO revienne dans ce partenariat gagnant-gagnant, j'allais dire, avec les FARDC pour lancer les opérations contre les FDLR, car les populations de Niazalé qu'il a rencontrées, ainsi que de Kiwanja, se plaignaient effectivement des exactions de ces FDLR. Beaucoup d'enlèvements dans ces zones-là occupées par les FDLR, alors que nous avons une présence MONUSCO, une présence militaire MONUSCO dans la zone qui pourrait donc apporter son appui ferme aux FARDC qui sont également présents pour enrayer de façon définitive les nuisances causées par ces FDLR. Et donc nous voulons voir, nous MONUSCO, un retour au devant de la scène de la force de la MONUSCO pour appuyer les FARDC, l'armée congolaise, dans la lutte contre les FDLR. Et cela est une volonté ferme, affichée, partagée avec les autorités donc, gouvernementales de la RDC. Nous voulons, nous attendons à ce que les discussions qui sont en cours dans le cadre de du dialogue stratégique puissent aboutir rapidement afin que ce partenariat gagnant-gagnant puisse reprendre.
Quelles sont justement les conditions, les engagements que vous attendez pour permettre à la force de la MONUSCO de se réimpliquer ?
C'est vrai que ce qui avait posé problème, c'était un peu la politique de diligence voulue des Nations Unies sur les droits de l'homme. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons trouver des arrangements, des ententes avec le gouvernement. Je crois savoir qu'un accord est très proche et que dans les jours qui viennent, nous le souhaitons en tout cas, cet accord puisse aboutir afin que nous puissions mettre de côté ce qui nous séparait jusque-là, ce qui faisait problème jusque-là, afin de joindre la main dans la main avec les FARDC et reprendre ces opérations.
Souvent, enfin au siège en tout cas, dès qu'on crée ou on parle de la création des missions de maintien de la paix ou de stabilisation, on parle aussi de l'importance de créer une stratégie de sortie. Parce que l'idée est justement que ces missions doivent être temporaires et éventuellement quitter le pays. Sur le terrain et par rapport à la RDC, qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les éléments les plus cruciaux en ce qui concerne la RDC qui doivent être concrétisés pour pouvoir réaliser cette stratégie de sortie ?
La précédente résolution du Conseil de sécurité, la 2147, demandait clairement, effectivement, à la MONUSCO de préparer sa stratégie de sortie. Et une fois de plus, au niveau de la MONUSCO, Martin Kobler, le représentant spécial donc à RDC, a dit que cela devait être lié à un certain nombre de points. Le premier point, c'est vraiment le retour à la paix, à la stabilité, au calme dans l'est du pays, car la mission des Nations Unies a été créée pour amener la paix, la sécurité, la protection des civils dans l'est du pays. Il faut que nous ayons des résultats tangibles sur ce point. Deuxièmement, pour que la stratégie de sortie puisse être effectivement enclenchée, il faut que aussi l'état des droits de l'homme avance. Il faut aussi que la bonne gouvernance puisse progresser et nous allons effectivement, dans le cadre des prochaines élections, essayer de voir dans quelle mesure cette bonne gouvernance est une réalité en RDC. Ce sont des éléments d'appréciation, des éléments de qualité sur lesquels les différents départements, divisions ainsi que les représentants spéciaux en RDC travaillent, veillent pour que cela puisse être visible, palpable, afin que, effectivement, la stratégie de sortie de la RDC puisse être enclenchée de façon souveraine. Il a dit, d'ailleurs, il ne sert à rien de mettre fin à une mission des Nations Unies si la situation n'est pas stable et si le Conseil doit revoter quelques années après une autre mission pour revenir refaire ce travail. Radio Okapi.
Okapi. La MONUSCO est également présente dans les ondes radiophoniques du pays avec Radio Okapi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette radio ?
C'est une radio, effectivement, qui est très présente sur l'ensemble du pays avec une audience de 24 millions d'auditeurs par semaine sur l'ensemble du pays. Donc, c'est la seule radio, c'est le seul média, je dirais même, qui couvre l'ensemble du pays. Et elle est au service vraiment du peuple congolais. C'est vrai que c'est une radio des Nations Unies qui a un personnel très professionnel, très consciencieux et qui fait un excellent travail que nous essayons d'encadrer et que nous essayons aussi d'accompagner. Car nous voulons que, on parle de stratégie de sortie de la RDC, nous voulons voir cette radio Okapi, après le départ de la MONUSCO éventuellement du pays, qu'elle demeure, qu'elle reste et qu'elle reste toujours au service du peuple congolais, car elle a une très haute estime. C'est vrai de la part de la population, mais aussi de la part de la classe politique dans son ensemble. C'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, nous avons eu parfois quelques remarques en provenance des autorités gouvernementales ou de certains directeurs d'institutions nationales. Nous essayons d'en prendre compte dans la mesure du possible pour continuer à perfectionner ce travail de professionnel que nous faisons au niveau de Radio Okapi. Et je pense une fois de plus que c'est un indicateur justement de l'état d'avancement de la démocratie dans ce pays. Sa liberté d'expression, sa liberté de parole, etc. sont pour nous capitales.
Est-ce que justement l'éventuel maintien de la radio après la sortie de la mission, est-ce que c'est un élément central pour vous ?
Nous y travaillons, tout n'est pas gagné, mais nous espérons qu'avec les discussions qui sont déjà engagées, que nous allons aboutir avec les autorités à un consensus sur cette question.
Donc la MONUSCO a été créée en 2010 et elle succédait à la MONUC, donc qui était une mission de maintien de la paix à proprement dit, qui a été créée en 1999. Donc ça fait à peu près 16 ans de présence de l'ONU dans le pays. Quel bilan tirez-vous ?
Le bilan au niveau sécuritaire est palpable en réalité. En 1999, quand la MONUC existait, d'aucuns se plaisent à rappeler que ce pays était divisé et que pour aller par exemple de Kinshasa à Goma, il fallait un passeport, il fallait un visa. Pour aller de Goma à Kisangani, il fallait un autre visa parce que les différents lieux étaient occupés par différents groupes armés qui légiféraient pratiquement par leur propre nom. Grâce à l'effort conjugué des Nations Unies et de l'armée congolaise, parce que l'armée congolaise a toujours existé sur le pays, nous avons mis fin à cette division du pays. Nous avons réunifié le pays aux côtés des Congolais. Nous voulons voir ce travail parachevé. Je pense que beaucoup de choses ont été gagnées sur l'avancée sur la question des droits de l'homme, l'avancée sur la question de la démocratisation. Vous savez que les premières élections ont été libres en ce sens, même si dans les années 60, d'autres élections avaient été organisées, multipartites en tout cas, et été organisées en 2006 avec la participation au premier degré de la mission des Nations Unies à l'époque. Et nous avons essayé d'accompagner tout cela. Il y a beaucoup de différences que nous avons faites sur le terrain, non pas seulement sur le plan militaire. Beaucoup de sections, de départements de la MONUSCO aujourd'hui travaillent sur les thèmes comme la santé, comme l'éducation, comme la réhabilitation des prisons, la formation des policiers, la formation des militaires. Donc il y a beaucoup de thèmes sur lesquels la MONUSCO travaille à l'heure actuelle à travers l'ensemble de ses départements et divisions qui font avancer la cause du développement en RDC. Et nous espérons que nous pourrons, dans les années qui viennent, finaliser ce travail-là afin de mettre en action donc la stratégie de sortie du pays que vous avez signalé tout à l'heure.
Merci Charles Bambara pour cet
entretien. Merci bien.
Voilà, c'est avec Charles Bambara de la MONUSCO qui répondait aux questions d'Isabelle Dupuis que se referme ce magazine Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter grâce au podcast et sur Internet les magazines, mais aussi le journal et les mises à jour de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.